Vous écoutez France Musique.
Bienvenue au Diable Beauvert. C'est l'un des secrets lyriques les mieux gardés, peut-être. La France possède déjà depuis quelques années l'une des plus grandes sopranos de son temps, une héritière des Cinti d'Amoro, de celle qui ne cédait pas un pouce devant les tenantes du chant italien. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ami André Tuboeuf. Mais c'est plutôt au Met de New York, à l'Opéra de Vienne ou à la Scala de Milan qu'il faut aller pour l'applaudir. Alors préparez-vous à un festin de bel canto et pour une fois, baissez le son.
Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Fille d'une chanteuse qui taquine l'opérette et d'un choriste de Radio France, lesquels font tout pour la détourner d'un métier qu'ils jugent trop difficile, elle étudie l'histoire et l'anglais, tout en se passionnant en douce pour les grands concertos pour violon et pour les voix d'une Callas, d'une Nilsson ou d'une Sutherland. Mais pour l'heure, elle est instite, faisant découvrir à ses élèves la musique avec l'enfant et les sortilèges, jusqu'à ce que son compagnon d'alors la persuade de se jeter à l'eau. Ce sera un stage à s'insérer avec Denise Duplex, qui l'envoie chez Isabelle Garcisantz, laquelle lui apprendra tout en moins de 4 ans. Puis elle rencontre un baryton, vendeur d'ambulances, qui la présente au fondateur du Festival d'Aix, Gabriel Dussurgé, et ce dernier la fait immédiatement débuter avec Bernard Thomas. Une messe plus tard, à 28 ans, ce sont des débuts fulgurants de la comtesse Adèle du Contori à la Folie de Platé, puis les plus grands rôles pyrotechniques du bel canto de Lucia la Sonnambula, bien sûr, mais aussi des pages moins connues signées Rossini, Bellini ou Donizetti, sans oublier son cher Mozart et les grandes pages de Meyerbeer ou d'Alevi. Pour le reste, vous ne saurez rien d'elle ou presque, si ce n'est qu'elle aime évidemment l'Italie et les chiens, et aussi de plus en plus à mourir sur scène. Alors faites vite de votre table une standing ovation à notre invitée du jour, la soprano Annick Massis.
Thank you.
Bonjour Annick Massis.
Bonjour Thierry.
Entrez sous les applaudissements. Voilà un ouvrage qu'on n'entend pas si souvent que ça, mais oh Dieu merci, vous l'avez enregistré, Mathilde Dichabrand de Rossini, une petite rareté. C'était l'Orchestre Symphonique de Galice sous la direction de Riccardo Frizza. Alors, j'ai l'impression que vous allez chanter pendant toute l'émission. Là, vous chantiez évidemment un petit peu pendant Mathilde Dichabrand. Vous avez chanté le générique, Madonna.
Ah oui, ça j'adore. Je suis allée voir
vous
son
adorez
dernier
Madonna.
Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que je suis allée voir son dernier spectacle, finalement, parce que j'avais toujours plus ou moins raté. J'aime beaucoup sa façon de son professionnalisme. Une bête de scène absolument. Tout est réglé comme du papier à musique. C'est vraiment une super travailleuse. Je trouve qu'elle a un contact très particulier aussi avec son public. Hein, le fait de faire toutes ses répétitions et le warm-up avant les concerts pour ses fans qui viennent, etc. Ça m'étonne pas qu'elle emmène les foules, quoi. Et puis son spectacle était beau le dernier. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. Très spectaculaire.
En fait, c'est une diva d'aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait. Bon, c'est la diva, une grande diva pop. Ah oui, tout à fait.
Parce que bon, elle a la queue devant l'hôtel, elle peut pas arriver discrètement dans un lieu de concert.
Non, c'est pas possible. Ça doit pas être facile tous les jours, je pense. Mais enfin, je pense qu'elle préserve bien sa vie personnelle aussi, et sur scène, elle est formidable. Je veux dire, il faudrait qu'on puisse faire nous aussi de temps en temps des spectacles avec micro comme ça, réglé comme ça. Je pense que c'est assez grisant. Ça doit être assez grisant.
Bah non, si vous prenez un micro sur scène au Met ou à l'Opéra de Paris, même parfois on en aurait besoin, ça n'ira pas du tout, Annick. Alors on va évoquer un tout petit peu le passé, l'avant carrière. Donc papa, maman étaient contre le fait que vous chantiez.
Ah complètement. Ils m'ont toujours dissuadée. Je pense par protection. Maman, parce qu'elle était en pleine carrière, donc a chanté l'opérette. Elle était en pleine carrière. Papa, parce que, ayant fait une carrière d'ingénieur, enfin d'études, et après étant entré
dans cette maison,
belle maison de Radio France, comme dans le chœur national de Radio France, comme baryton. Je crois que c'est par protection. Ils n'ont pas voulu que je continue sur cette voie. Donc, j'ai mis cette flamme à l'intérieur de ma poche avec un mouchoir au-dessus. Et puis, pendant des années, j'ai fait le cursus de ma grand-mère, pour le coup, c'est-à-dire suppléante. En tant qu'institutrice suppléante, puis je suis rentrée à l'école normale, je suis ressortie institutrice, j'allais dire nommée. Et puis après quelques années d'enseignement, ça continuait à être plus fort que moi. Donc j'écoutais tout le temps la radio, j'achetais beaucoup les partitions. La voix était toujours, encore et toujours, une chose qui me suivait, qui me fascinait et qui me passionnait. Et puis voilà, un jour, poussée par mon compagnon du moment, on est allé rencontrer Denise Duplex en partant. On était dans la région du Gers et on avait donc vu qu'elle donnait un masterclass. On a donc fait quelques kilomètres en partant à 6h du matin. On est arrivé, j'étais pas très fraîche, c'est vrai, mais Denise Duplex, j'ai frappé au moment où elle terminait sa première session vers midi, etc. Et puis elle m'a entendue, elle m'a eu la gentillesse de m'entendre dans un air. Et voilà, et c'est parti de là. Et donc elle m'a gentiment dit qu'elle ne pouvait malheureusement pas, elle n'avait pas le temps matériel de s'occuper de moi à ce moment-là. Et elle m'a dirigée vers Isabelle Carcissens avec l'aide de la pianiste Sybille Bartrop. Et c'est parti. Là, c'est parti.
Heureusement.
Ah oui, je me
plains. Et le baryton vendeur d'ambulance, ça c'est improbable quand même.
Alors ça c'est très improbable, ça c'est un rebondissement.
Mais il connaissait du surgé.
Ah ben voilà, c'est incroyable. Vous voyez, en fait je venais entre guillemets du sérail dans la mesure où mes parents étaient effectivement dans le métier d'une part et d'autre, mais en même temps je venais de nulle part. Et donc quand j'ai commencé à travailler avec Isabelle Garcissens, elle a fait un jour un master à l'université d'Orsay, et durant ce master j'ai rencontré effectivement un vendeur d'ambulance qui avait une merveilleuse voix de baryton mais qui ne voulait pas se diriger vers la musique, et qui m'a dit: écoute, tu sais, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être te conseiller. Et en fait c'était Gabriel Dussurgé, ce à quoi je lui ai dit: t'es complètement fou. Et puis finalement j'y suis allée une fois le soir, j'ai vu un pianiste, et après ma journée de classe, je crois que c'était un jeudi soir, voyez, hop, j'y suis allée et j'ai chanté pour Gabriel Dussurgé, qui a été absolument adorable et qui m'a demandé de revenir la semaine d'après avec d'autres choses à chanter. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est que quand je suis revenue cette deuxième fois, il y avait mon premier agent qui était dans une pièce à côté et qui m'a entendu chanter. Et je ne sais pas, Gabriel avait peut-être perçu que j'étais
un petit peu
voilà, angoissée. Il a fait sortir Jean-Marie Poilvé, qui nous a quittés malheureusement voilà quelques années maintenant, et qui a dit « Mademoiselle, nous allons nous occuper de vous ». Voilà, et c'est parti comme ça. Voilà.
Alors, Annick Massis, une petite Madeleine ancienne, parce qu'à l'époque, vous étiez institutrice. Je l'ai dit dans mon papier, vous faisiez écouter Ravel, L'enfant et les sortilèges, aux enfants.
Celle dont l'histoire commençait.
Un extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, où là vous chantiez La Princesse. Annick Massis, c'est l'enregistrement que vous avez réalisé sous la direction de Simon Rattle avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. D'ailleurs, vous l'aimez toujours, L'Enfant et les Sortilèges. Ce sera dans votre actualité dès janvier prochain, dès janvier 2013. Toujours les trois rôles.
Oui, tout à fait. Parce que Lyon m'a proposé de refaire L'Enfant et les Sortilèges et j'avais envie de travailler avec Monsieur Slatkin parce que j'ai jamais travaillé avec lui. Donc voilà, je suis très contente. On a un premier concert à Lyon le 24. On en a un autre, je ne sais plus la date. Et puis on passe par Pleyel le 29 janvier. Donc je suis très
Cherchez
contente.
Cherchez pas trop vos dates. Toutes vos dates sont sur notre site. Sont sur le site de l'émission. Voilà. Rassurez-vous.
Mais de toute façon, j'avais repris ça. J'avais repris ces trois rôles l'année dernière. Enfin non, pas l'année dernière, en début d'année 2012 chez Jean-Louis Grindin à Monte Carlo. Et cette fois-ci sur scène pour la première fois. Et ça a été encore un double bonheur parce que vraiment Jean-Louis Grindin avait fait une mise en scène absolument très moderne, en même temps moderne, classique et absolument magique. Et voilà, et j'ai été très contente pour la première fois de faire ça à Monte Carlo avec Jean-Louis et puis de rechanter cette heure. Donc oui, c'est un bonheur pour moi de le refaire à Lyon et à Pleyel.
Et en classe, Annick Massis, vous chantiez aux enfants La Princesse, tous les
oui,
rôles
oui. Oui, parce que c'était pour moi un moyen idéal avec les enfants. D'abord, j'ai toujours tenu à les initier au théâtre et à la musique et puis à l'éducation physique aussi. On faisait beaucoup ces choses-là, même s'il y avait des professeurs qui étaient professeurs en titre, chargés en professeur en titre pour ces matières, parce que je trouvais que c'était très important et puis que le reste marchait beaucoup mieux. Je veux dire, maths, français, ça marchait beaucoup mieux quand la maîtresse, je les prenais par la main, on allait faire la gym dehors ou qu'on faisait de la musique ou du théâtre, etc. Tout marchait beaucoup mieux. Il y avait une cohésion, une homogénéité de la classe bien meilleur. Et puis, la musique, c'était évidemment très, très important. Donc, je voulais les sensibiliser. Ça permettait de faire des images séquentielles. Donc, les enseignants qui m'entendent sauront pourquoi. Parce que là, on touche beaucoup de choses pour un enfant. Quand on fait une image séquentielle, une image séquentielle par la musique, alors ça touche le dessin, ça touche le temps, ça touche l'espace, ça touche beaucoup de choses. Et ils aimaient beaucoup. Et ils ont fait des dessins absolument fabuleux sur ce, à l'écoute des instruments, des voix, de l'histoire. Ça marchait très, très bien.
Méfiez-vous, hein, Vincent Payon va vous appeler pour faire une consultation au ministère. Alors, il n'y a pas que la voix dans la vie, il y a eu aussi dans votre jeunesse une passion pour le violon. Thank you. concerto de chœur pour vous, Annick Massy. C'était les dernières mesures du concerto de Marxbourg. Alors, chercher un enregistrement qui puisse correspondre à l'époque où vous gaviez, si j'ose dire, de concerto pour violon, c'est Anne-Sophie Mutter avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous direction d'Herbert von Karajan. Et le violon, vous n'avez pas essayé du coup?
Non, je n'ai pas essayé, mais là, quand je réentends ça, je regrette. Non, je regrette parce que la voix, c'était, je crois que c'était vraiment mon truc, mais c'est vrai que je me suis nourrie de tous ces concertos. C'est... Vous voyez, je réentends ça, ça me donne encore le frisson, et s'il en est besoin, ça ranime encore une flamme. Ça ranime une espèce d'exaltation intérieure. Vous voyez, ça exalte une certaine... le cœur, en fait, je crois. Je crois que ça parle vraiment à mon cœur. Ce sont des sonorités, et bon, sans parler de la technicienne et de l'artiste qu'est Mutter, évidemment.
Puis c'est du chant, ça.
Bah, c'est enfin, du
quand
chant,
on joue du violon comme ça,
c'est
du chant.
C'est du chant, absolument. Et c'est vrai que ça m'a construite dans mon chant, quand j'étais très, très, très jeune, toute petite.
Mais vos parents, alors, ils ne voulaient pas que vous soyez chanteuse parce que c'était trop dangereux, vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui.
Oui.
Mais ils auraient pu vous dire, bah, je ne sais pas, fais un instrument, là, on trouve du travail quand on a un violoniste, même dans un orchestre.
Oui, ben non, rien du tout, rien du tout. Rien du tout, et j'ai commencé, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même, qu'importe, au diable. J'ai commencé, en fait, juste avant de commencer ma carrière, j'ai commencé à prendre des cours de piano. Ça a été pour moi un moment extraordinaire, merveilleux. J'avais fait mes économies, je me suis acheté un petit piano droit. Et donc, j'avais une dame absolument adorable qui venait une ou deux fois par semaine. Et je prenais mes cours de piano et ça a été extraordinaire. Et puis, d'un seul coup, voilà, la carrière a démarré et puis j'ai dû laisser. Mais quand même, j'ai commencé à jouer des petites bricoles d'Eric Satie, formal, mais disons que quand il y avait deux mesures, ça pouvait commencer à être intéressant.
Prenez tournure. Vous l'avez toujours, le piano?
J'ai toujours le piano. J'ai toujours le piano. Ah,
c'est bien.
Voilà. Mais je n'ai pas fait de progrès du tout. Donc, je m'en sers juste pour faire les accords et pour travailler, pour moi. Mais non, pas d'instrument. Mais c'est un regret, ça, quand même. Un peu un regret. Enfin, bon, il ne faut pas avoir de regret. Mais
vous avez beaucoup de flamme et encore beaucoup de vie.
Oui, tout à fait. Non, mais il n'est pas dit que je ne m'y remette pas.
Mais absolument. Alors, vers 28 ans, la carrière démarre et tout de suite, non pas avec des petits rôles comme certains chanteurs qui démarrent peut-être plus tôt mais y arrivent moins vite. Vous, c'est tout de suite les très grands rôles.
Thank you.
Voilà, vous étiez la comtesse Adèle, Annick Massis, dans cet extrait du Cantori de Rossini, un de vos premiers très grands rôles, que vous aimez d'ailleurs toujours beaucoup, je crois. Hein. L'orchestre de la Suisse italienne sous la direction d'Enrique Mazzola. Alors, je le disais aussi dans mon papier, 4 ans avec Isabelle Garcisanz, et on est prête pour la carrière, y compris tout de suite les grands rôles.
On n'est jamais prêt, non. Alors ça, non. On n'est jamais prêt. On a des armes, on est armé pour faire certaines choses. Et on est prêt, disons, on est prêt à réfléchir, on est prêt à travailler, on est prêt à changer, on est prêt à se modifier. Voilà pourquoi on est prêt, parce qu'on n'est jamais prêt, enfin je pense pas, on n'est jamais prêt. Et puis heureusement, parce que même encore aujourd'hui, c'est des remises en question. J'ai rechanté, donc, comme je disais en début d'année, ce Cantori avec grande joie à Marseille. Je ne l'ai pas chanté du tout de la même manière que là, c'était
oui,
en 99.
Toute fin des années 90.
Ouais, oui. C'est mes débuts internationaux, mes premiers débuts internationaux. Je n'ai pas chanté de la même manière. Donc oui, on a des armes. Quand on a fait, on a travaillé 4 ans avec un professeur, en l'occurrence Isabelle Garcisson m'a apporté beaucoup. À ce moment-là, j'avais des armes. J'avais déjà des armes pour stylistiquement. Elle était très très forte, entre autres, Madame Garcisson, sur le style. Après, c'est un chemin à faire, un travail qu'il faut poursuivre, quoi. Mais c'est des bons souvenirs. Mais 4 ans après, on chante autrement. 10 ans après, on chante autrement.
Heureusement, comme ça, le public revient.
Ah bah oui, sans ça, ce sera ennuyeux. En plus.
Et pour vous et pour nous.
Exact.
Alors, on a l'image évidemment de vous dans tous ces grands grands rôles de bel canto. On va en écouter d'autres tout à l'heure, mais aussi la musique baroque, elle existe. Là, c'était il y a presque 20 ans, Annick Massis, un extrait d'Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau. Vous étiez l'amour, mais vous êtes aussi dans cet enregistrement une bergère et une matelote, sous la direction de Marc Minkowski, avec lequel vous ferez aussi La Folie de Platé ou La Résurrection. Alors, paradoxe encore, beaucoup de chanteuses de votre génération viennent des Arts Florissants, enfin des Curies, un petit peu William Christie. Vous, non, vous faites le chemin en sens inverse.
Bah oui, il faut bien se faire remarquer.
Ah, ça, c'est clair.
Ça, c'est ennuyeux. On ne faut pas faire tout le temps ce que les autres font. C'est pas drôle. Ben non, mais c'est pas volontaire, c'est comme ça. C'est que j'ai commencé un peu par la musique française du 19e et puis l'Italie. Un petit peu. Et puis, il m'a semblé qu'il y avait tout un pan de la culture que je ne connaissais pas, la culture musicale que je ne connaissais pas, qui était la musique baroque, et qui m'intéressait énormément. Et qui mieux que Minkowski, William Christie, Malgloire, etc., pouvait m'aider dans ce sens. Et donc, je suis rentrée dans ce monde baroque. Et je me souviens d'un travail énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc apprendre tout, comment on chante le baroque, c'est pas facile. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un travail énorme. Les coulées, les trilles, d'une certaine manière, etc., etc. Tout un monde.
On est loin de Violetta ou de Lucia.
Ah ben ça n'a rien à voir. D'ailleurs, à ce moment-là, j'aurais pas pu chanter Lucia ou Violetta. Hein. C'était pas possible. En tout cas, dans ma tête. Non, mais même vocalement, j'étais beaucoup plus légère alors. Et c'est vrai, c'est un coup de fraîcheur, là. Je viens d'entendre ça, j'ai du mal à penser que ça fait 20 ans. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que ce sont des chefs d'orchestre qui sont formidables avec des orchestres merveilleux. Je ne sais pas si vous entendez la qualité de tous les instruments. Enfin, on s'écoute, on est vraiment à l'écoute et on fait de la dentelle, en fait.
Eh bien non, on adore ça, Annick Massis. Allez, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, toujours aujourd'hui, c'est un certain Mozart.
Yeah.
Et en public toujours, votre Giugna dans le Lucio Silla de Mozart, Annick Massis, ici accompagné par l'orchestre du Théâtre de la Fenice et sous la direction de Thomas Netopil. Donc Mozart, vous lui êtes toujours fidèle, ce que j'aime beaucoup. Vous avez commencé d'ailleurs avec Bernard Thomas, c'était du
absolument,
Mozart.
Absolument, toutes les messes de Mozart, les Requiem, le Grand Messe en Ut de Mozart, la Messe du Couronnement, toutes les messes de Mozart, oui.
Ça forme.
Ah oui, oui, non, c'est merveilleux. Mais voyez, on y revient toujours. Hein. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour commencer, je veux dire.
Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est quand vous chantez tous les grands rôles, ben, quand même, dans la Flûte Enchantée, vous faites encore la première dame. Et oui, d'ailleurs, vous allez le faire à Monte-Carlo, à Berlin et à l'Opéra du Rhin.
Et à Berlin, oui, à Baden-Baden. Mais ça, c'est un clin d'œil, parce que quand on a enregistré, en fait, on a enregistré avec Simon Rattle, l'enfant et les sortilèges, il m'a rappelé pour me demander si je ne ferais pas une première dame. Franchement, ça, il y a longtemps que je ne le fais plus et tout et tout. Et puis, il m'a dit, écoute, c'est ma femme Magdalena Kojena qui fait la deuxième dame et c'est Nathalie Stutzmann. Je dis, mais qu'est-ce que tu nous fais
Ah, c'est le caste d'enfer,
voilà,
là.
Voilà, je ne sais pas, mais enfin, je pense que... Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil de bonheur, parce que c'est un vrai bonheur de travailler avec Simon Rattle, déjà. C'était un grand plaisir pour moi, un grand honneur. Et je suis très contente de le retrouver pour ça. Donc, oui, une première dame, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas,
voilà. Il y aura un enregistrement, du coup.
Oui, normalement, hein, normalement, oui, normalement. Ça se murmure.
Bon, de toute façon, tous les concerts de la Philharmonie de Berlin ont aussi leur écho sur le net. Donc,
voilà, ça c'est. Mais en plus, c'est de retrouver la Philharmonie de Berlin, pour moi, c'est the luxe. C'est vraiment un grand
pire.
Luxe. Ah oui, oui, ça.
Alors, Annick Massis, j'espère que votre cher étant n'est pas à l'écoute en ce dimanche midi, car l'ami Nicolas Lafitte va vous faire, je crois, une déclaration d'amour.
Ah bon?
Cher Annick, lorsque Thierry m'a annoncé que vous veniez dans son émission, je me suis immédiatement renseigné sur l'artiste que vous étiez. Je me souvenais vous avoir vu un jour à la télévision, certainement aux Victoires de la Musique, mais je vous avoue avec honte que je n'en savais pas plus sur vous. Je suis donc allé sur votre site internet. Après avoir constaté que vous étiez blonde, pulpeuse et particulièrement jolie, je vous ai écouté. Et là, grosse claque. Ce n'est quand même pas possible d'être passé à côté d'une voix puissante, large, souple et si émouvante. En allant de la Traviata à Platée, en passant par les Pêcheurs de Perles, que vous soyez blonde, rousse ou brune, j'ai été scotché. Alors, chers auditeurs, avant cette émission, si vous étiez dans mon cas, je ne peux que vous encourager à aller jusqu'au bout de cet entretien avec Thierry, à découvrir toutes les vidéos sur Internet et les enregistrements chez votre disquaire préféré. Histoire d'en rajouter une couche, lorsque l'on découvre qu'en plus d'être belle et talentueuse, eh bien vous êtes intelligente et humble, alors là, on se dit qu'on est tombé sur le gros lot. Et dire qu'on aurait pu passer à côté de vos talents si vous étiez resté dans l'éducation nationale. Et heureusement que c'est l'opéra qui vous a attiré pour votre reconversion. Imaginez un peu si vous aviez voulu devenir, je ne sais pas moi, chauffeur routier ou éleveuse d'autruches ou psy. Remarquez, Annick Massis, psychiatre, je ne vous le souhaite pas, mais c'est encore une reconversion possible. Hein, parce que les folles, ça vous connaît. Quand on voit qu'un de vos rôles fétiches est celui de Lucia di Lammermoor de Donizetti, ah oui, ne me dites pas le contraire, elle est complètement givrée celle-ci. Petite démonstration pour nos auditeurs, c'est parti. Comme dans toute bonne histoire qui va mal se terminer, deux familles de bourgeois, du genre châtelain avec des armures et des grandes robes, s'affrontent. Lucia doit épouser un certain Arturo, qui en plus d'être son mari, pourrait éventuellement sauver sa famille de la banqueroute. Mais évidemment, ce n'est pas si simple, puisque cette sotte est amoureuse d'Edgardo, un des membres de la famille rivale. On n'a pas idée de tomber amoureuse du mauvais aussi.
Je suis navrée, c'est entièrement de ma faute. Je suis tellement maladroite.
Bah oui, mais le frère de Lucia, Enrico, du genre macho et directif, est, on s'en doute, fou de rage. Et alors qu'Edgardo part pour la France, il use de tous les stratagèmes pour que sa sœur épouse Arturo. Évidemment, le jour des noces, Edgardo débarque à la petite fête organisée pour l'occasion. Alors là, notre Lucia est complètement paumée au milieu de tous ces hommes, tiraillée par ses sentiments. Elle pète les plombs.
Ça y est, elle revient. Qui êtes-vous? C'est vous qui avez commandité mon exécution, quand est-ce? Je ne suis pas prête. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir.
D'un coup de folie, donc, elle tue son mari. Puis, après avoir vocalisé pendant des gammes et des mesures entières, elle finit par mourir. Du coup, son amoureux Edgardo se suicide en se poignardant.
J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur.
Ah oui, ce n'est pas gai, mais c'est sûr que votre vie, Annick, doit être nettement plus trépidante que quand vous étiez instite. Surtout que l'avantage avec tous ces rôles que vous interprétez, c'est que vous pouvez renaître et mourir à volonté. Et j'ai lu quelque part qu'en plus, vous adoriez ça. Inquiétant, non ?
Je ne suis pas folle, vous savez.
Oui, c'est cela, oui.
Sporgi fino, moro bianco.
C'est une ovation, Annick Massis. Lucia, bien sûr, pour faire suite à l'explication de texte faite par Nicolas Lafitte, le met en 2007 sous la direction de James Levine.
Ouais, je suis émue d'entendre ça, très émue. C'était un grand moment pour moi. Et je vous remercie de l'avoir passé, parce que c'est
parce
un rôle
vous n'avez pas l'enregistrement.
Non, j'ai jamais enregistré Lucia et je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'émeut bêtement.
Il faut le faire un jour quand même. C'est un rôle, vous avez, à Vienne aussi, vous débutez avec Lucia.
Oui, à Vienne aussi, j'avais débuté avec Lucia. Oui, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de débuts dans beaucoup d'endroits avec ce rôle-là. Mais c'est vrai que...
Il vous va pas mal du tout, d'ailleurs.
Oui, j'aime beaucoup. Ouais. C'est l'avant-dernière...
Donc, les folles, on est bien d'accord.
Oui, les folles.
De Platé à Lucia, vous aimez bien. Et cette histoire de mourir en scène, vraiment.
Oui,
parce qu'il y a Violetta, il y en a plein. Hein.
Vous avez des informations, je me demande où est-ce que vous les prenez.
C'est vous-même qui l'avez dit un jour,
oui,
dans une interview.
C'est exact.
Aujourd'hui, je prends plaisir à mourir en scène.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un grand plaisir parce que je trouve que c'est un moment extrêmement privilégié de communication avec un public. Parce que je pense que ça provoque chez le public, chez moi et chez le public, parce qu'il y a et chez le public et chez moi, il y a un va-et-vient, bien entendu, un moment de conscience assez particulier. Et ça a un écho assez particulier. Et voilà, et je pense qu'on va tous les deux, le public et moi, dans un endroit inconnu pendant quelques instants. Et c'est mieux d'y aller ensemble que d'y aller tout seul.
Alors, on passe le grand tunnel et puis on revient.
Oui, voilà, c'est ça.
Je vois ce que vous voulez dire.
Non, c'est
pas tant, Nicolas, vous auriez pu faire psy. Alors, parmi vos passions, je le disais en préambule, il y a les chiens, mais je ne sais pas si vous chantez avec votre chien. Rassurons les auditeurs, Annick Massis, ce n'est pas vous dans votre salle de bain avec vos chiens, c'est Spike Jonze bien sûr, mais c'est des vrais chiens qui chantent quand même, dans cette espèce d'extrait complètement burlesque et fou. Il y en a plusieurs là aussi, vous en avez quatre, hein, c'est ça?
J'en ai quatre et je vous certifie que je peux vous envoyer un enregistrement. Ça donnera peut-être pas tout à fait la même chose, mais quand je commence à chanter, il y en a un ou deux aussi qui se mettent à chanter et c'est vraiment à mourir de rire. Oui, j'en ai quatre. C'est quatre petits maltais.
C'est pas seulement des animaux de compétition, enfin de compagnie, ils sont de compétition.
De compétition, oui, on a eu un premier petit maltais, une petite maltaise, la première qui était championne, qu'on a fait championne italienne, qui a eu une première portée dont on a gardé une fille qui est aussi championne italienne. Et puis j'ai eu un petit américain, donc un mâle qui est champion américain et qui a fait une portée et dont on a gardé aussi une. Donc c'est vrai que ça fait quatre bouches à nourrir, mais c'est absolument délicieux.
Et les petits bichons, en fait, ils voyagent autant que vous, du coup, pour aller gagner leur concours.
En fait, j'ai voyagé pas mal avec la première, mais après, je m'arrête là parce que c'est vraiment pas possible, parce que c'est un énorme entretien.
Et vous avez un coiffeur à temps complet, c'est ça?
À temps complet, absolument. Donc c'est vraiment un métier, parce que le poil est blanc, il faut qu'il soit absolument immaculé, très long, et c'est très, très difficile à entretenir.
Est-ce qu'ils portent des noms d'opéra, vos chiens?
Non, ils portent des noms japonais, parce qu'on aime beaucoup le Japon. Donc il y en a une qui s'appelle, la première s'appelle Yuki, la deuxième Sumi, qui veut dire grâce, le troisième, alors là, c'est James, parce que c'est le Texan,
ah,
il
vient
des États-Unis. Voilà. Et puis la dernière, Baba, parce que quand elle est née, elle avait vraiment l'air d'un gros baba. Elle était très, 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 très toute rose et voilà.
Mais c'est une championne, elle aussi.
Voilà.
Allez, on laisse la race canine un instant. Annick Massis, on revient à Donizetti.
Mmh.
Prévenu les auditeurs de baisser le son au début. Hein. Beaux aigus, Annick Bassis. Un extrait de cette petite merveille, une rareté, Elvida de Gaetano Donizetti, le London Philharmonic Orchestra, sous la direction d'Antonello Alemandi, un cast avec vous, bien sûr, dans le rôle titre, Jennifer Larmor, Pietro Spagnoli et Bruce Ford. Voilà quelque chose qu'il faut jouer plus souvent.
Oui,
en concert.
Oui. Peut-être
peut-être qu'en mise en scène, c'est plus dur, je sais pas.
Je sais pas, faudrait essayer au moins, parce que c'est des choses qu'on
Elvida n'est pas trop toquée, celle-là, si
Non, Elvida n'est pas toquée. Elvida n'est pas toquée. Elle est faite prisonnière par le camp ennemi, enfin c'est toujours la même histoire, mais elle n'est pas toquée. Il y a de très très beaux passages. C'est des choses qu'on pourrait faire en concert, qui sont des opéras courts de Donizetti. Il y a aussi Francesca di Foix, c'est assez délicieux, parce que c'est plutôt un opéra...
L'enregistrement existe aussi,
voilà,
je le signale.
Exactement, chez Opéra Rara, mais ce sont deux opéras courts dans deux registres complètement différents, qui sont absolument ravissants, qu'on pourrait effectivement donner en concert.
Alors, coup de fil de notre déjeuner, Annick Bassis, il est pour Dominique Meyer, le camarade directeur de l'Opéra de Vienne, que j'ai appelé cette semaine pour parler de vous. Il se souvient, en tout cas, nos informations correspondent, vos débuts à Vienne, c'était Lucia en 2005.
C'était Lucia et c'est amusant d'ailleurs parce que j'étais par hasard à Vienne ce soir-là. J'avais pas prévu d'aller à l'Opéra, mais j'ai vu son nom sur l'affiche et j'ai envoyé un petit SMS.
Voilà. Et puis après, ce sera Traviata, Roméo et Juliette. C'est presque une habituée, enfin, je le mets entre guillemets. Il n'y a pas des habitués à l'Opéra de Vienne, mais c'est une récurrente en tout cas.
Oui, elle est appréciée du public. Et, bon, on est toujours heureux de l'inviter ici. La dernière fois qu'elle est venue, c'était l'an passé. Elle a chanté Lucia.
Alors, grande voix reconnue de par le monde, mais peut-être pas assez en France, curieusement.
Oui, c'est curieux. En réalité, c'est quand même une chanteuse de très haut niveau mondial. Et elle a pas fait une jusqu'à présent une énorme carrière en France. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir l'accueillir lorsque nous avions monté Sémélé au Théâtre des Champs-Élysées avec David McVicar et Marc Minkowski. Et je me souviens très bien, elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et au fond, on ne la connaît pas si bien que ça en France, en tout cas à Paris, dans ses grands rôles de bel canto. C'est dommage parce qu'au fond, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas tellement de grands interprètes.
D'autant que c'est aussi une défricheuse, enfin on le voit avec son répertoire ou sa discographie. Évidemment, elle chante les grands Donizetti, mais aussi les moins connus, les grands Rossini, mais aussi les moins connus. Il y a beaucoup d'exhumations un petit peu dans son répertoire.
Oui, elle ne rechigne jamais à prendre de nouveaux rôles, apparemment. Elle est une tête chercheuse et en effet, on peut monter avec elle des programmes originaux. Elle avait aussi, il y a quelques années, fait un récital à l'Hôtel des Champs-Élysées. Donc elle avait donné toute une variété d'airs connus et naturellement aussi moins connus.
Et son prochain rôle à Vienne, vous savez déjà ?
Non. Tant que les conférences de presse ne sont pas faites, on ne peut pas en parler. Voilà.
On garde le mystère. Bon, je vais fouiller dans son agenda, je vais voir.
On va essayer de la faire revenir bientôt. Thank you.
Très célébrissime du Roméo et Juliette de Gounod. Vous étiez bien sûr Juliette, Annick Massis. Là, je crois qu'on est en 2008, bien sûr à Vienne. Et c'était, oui, si ma mémoire bonne, sous la direction de Bertrand Billy. Je vais faire comme Dominique Meyer, j'y étais ce soir-là.
Chouette. C'est vrai, on ne s'est pas vu. Vous n'êtes pas venu me voir après cette
journée. Si, je suis venu me voir à la sortie, bien sûr. J'ai attendu que vos fans vous fassent signer leur programme et ensuite on s'est vu. Oui,
mais bien sûr. Vous savez, c'est toujours pareil. Vienne, c'est extraordinaire. 3 jours. Prise de rôle, 3 jours. 3 jours de répétition. Donc, non, bien, bien, belle expérience.
Là, la mise en scène est un peu, je dirais, simplifiée, puis voilà.
Oui, oui, non, même pas. Non, c'était assez moderne, hein, si vous vous souvenez, comme mise en scène. Le début, il y a quand même, l'entrée est quand même assez originale. La pop star, justement, qui arrive avec le micro, les chocolats, on lui offre les chocolats, les fleurs, etc. Non, non, simplifiée, pas tant que ça. Non.
Mais quel orchestre en même temps.
Oui,
si on a que 3 jours, quel orchestre.
Ça, oui. Merveilleux. Orchestre de Vienne, c'est toujours le luxe. Hein. C'est comme le Metropolitan. C'est extraordinaire. C'est un grand luxe.
Alors, Annick Massis, Dominique Meyer le disait, vous êtes une bosseuse, une tête chercheuse. C'est par goût, par demande, par besoin?
Par goût.
Ouvrages rares.
Par goût, bah, écoutez, c'est toujours intéressant de savoir, par exemple, en ce qui concerne Donizetti, ce qu'il a pu écrire, parce que c'est vrai qu'on dit Donizetti a écrit Lucia, il a écrit ci, il a écrit ça, et puis il a bien fallu que certains ouvrages l'amènent ou le conduisent à ce summum musical que peut être, par exemple, Lucia. Je veux dire, c'est comme Maria di Rohan, c'est des choses qu'on entend moins. Elvira, Francesca di Foix, ce sont des choses qu'on entend moins, mais qui sont toujours intéressantes à étudier, parce que c'est ce qui l'a conduit à écrire Lucia, par exemple, à un certain moment de sa vie. Donc,
bien agréable à entendre, il faut le dire aussi. Hein, c'est pas
magnifique,
il
y a des pages qui sont somptueuses. Hein.
Allez, tiens, une autre rareté encore. Cette fois, c'est de la musique française, Giacomo Meyerbeer, Margarita d'Anjou.
Oh!
Un extrait de Margarita d'Anjou, encore un ouvrage rare. Il est signé Meyerbeer, mais il y a le lien. Vous étiez donc le rôle de titre, là encore, Annick Massis, le London Philharmonic Orchestra, sous la direction de David Perry. Là aussi, c'est quelque chose, c'est bien de l'avoir enregistré, mais on ne chante pas ça toutes les semaines.
Ah non, c'est
redoutable, c'est côté reine de la nuit. Là,
ah, oui. Et puis alors, c'est comme ça du début à la fin. Quoi.
Oui, j'ai réécouté.
C'est aussi un peu comme la Mathilde du Chabran de Rossini, quoi, qu'on m'avait proposé après. J'ai dit non, merci, je l'ai chanté à Pesaro une fois. Je veux dire, le dernier air, par exemple, dans Mathilde, arrive à minuit moins le quart, avec une chaleur monstrueuse. Je vous assure que c'est vraiment pas évident. Puis c'est des partitions, c'est une musique terrible. Il y a des vocalises partout, il y a des notes partout. Et là, c'est pareil. Musique hybride, en plus, ici, c'est un peu comme la juive. Ça fait partie de ces musiques hybrides entre deux époques musicales. C'est peut-être ce qui en fait un peu la difficulté.
Et puis ces grands opéras français du 19e siècle. Mm-hmm. Dans l'agenda, nous avons parlé de cette première dame dans la flûte enchantée. La somnambule, ce sera en février à l'Opéra de Monte-Carlo.
Oui, hein, je suis très heureuse de la retrouver en concert chez Jean-Louis Grinda, effectivement, avec M. Fogliani, qui est à la baguette.
Non, puis c'est bien, ça fait une cintrée dans le début de la saison.
Voilà, je n'allais quand même pas rater ça.
Et puis des pêcheurs de pelles qu'on pourra entendre à l'Opéra du Rhin à Strasbourg et puis aussi à la filature de Mulhouse. Prochain rôle sur votre piano droit à travailler, à découvrir,
Un petit peu tout, hein, vous savez, il faut quand même tout. Sonnambula, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas chanté, donc je voudrais voir, je vais me laisser surprendre aussi pour savoir ce que je peux en faire maintenant.
Mais un que vous n'avez pas encore chanté.
Un que je n'ai pas encore chanté, c'est pour la fin de l'année 2013, c'est La Fée. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, tant pis. C'est La Fée, donc il y a Joyce DiDonato qui va faire Cendrillon. Et puis moi, je vais lui chanter, je vais faire Sa Fée. Donc, je n'ai jamais chanté ça, c'est aussi un plaisir. J'ai eu envie de me faire plaisir. Et voilà. Et puis la reprise, quand même, de Roméo et Juliette avant. Donc ça, j'ai déjà chanté, mais La Fée, jamais. Donc, c'est deux belles choses en fin d'année 2013.
Ce sera en France ?
Non, ce n'est pas en France. Voilà. Non.
Nos auditeurs se déplacent.
Oui, ce sera La Fée, c'est à Barcelone, au Liceo.
C'est agréable en plus.
Oui, c'est beau. C'est très beau. Bel endroit. La dernière fois, j'y ai chanté Lucia, donc c'est bien. Et puis, en ce qui concerne Roméo, c'est en Belgique.
C'est pas loin non plus.
C'est pas loin. Il y a un TGV direct.
Il y a des récitals avec piano, pas souvent. Hein.
Si, j'en fais un petit peu. J'en fais un petit peu et il va y en avoir un qui m'intéresse beaucoup, qui sera probablement au Festival de Toulouse au mois de juillet, mi-juillet par là. Et ça m'intéresse dans la mesure où c'est quand même l'année Verdi et je suis en train de chercher des œuvres des opéras de jeunesse de Verdi. Tout un programme Verdi avec bien sûr les œuvres de jeunesse en ce qui me concerne parce que je peux pas intervenir sur des opéras de maturité. Ma voix ne correspondrait pas à cette je n'ai pas les possibilités pour le faire ou en tout cas je ne servirais pas correctement la musique. Donc œuvres de jeunesse absolument magnifique, il y a des choses merveilleuses, Medora, Corsaro, des choses comme ça.
On va découvrir alors. Et vous enseignez ? Vous qui avez tellement enseigné avant ?
Oui. J'ai pas mal de demandes, j'essaye d'aider le maximum de personnes.
J'imagine.
Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'ai fait Opéra pour tous à Marseille au printemps dernier. J'ai fait, c'était accessible à tous les artistes lyriques de tous les âges, de tous les horizons. C'est très intéressant. Et puis j'ai fait l'Académie de Nice cet été. Je suis vraiment des élèves merveilleux, c'était passionnant. On a balayé plein de répertoires et évidemment, j'ai des demandes en privé, donc j'essaye d'aider certaines personnes, mais je dis toujours que je ne peux pas être complètement disponible parce qu'il faut aussi que je continue à gérer la carrière et c'est important.
C'est heureusement pour nous, Annick.
Ouais, c'est gentil.
Alors, mille merci d'avoir partagé ce déjeuner musical en
merci
notre compagnie.
Vous.
On va refermer cette émission avec un extrait de La Juive d'Alévi. Et là, vous étiez sur la scène de l'Opéra Bastille.
Thank you. Thank you.
C'est donc avec cet extrait de La Juive d'Alévi avec Annick Massis dans le rôle de Doxy, enregistré à l'Opéra Bastille voici quelques mois, que nous refermons cette émission qui a été préparée par Xavier Carrère et réalisée par Jean-Charles Dieval avec aujourd'hui Jean-Michel Coqui. La semaine prochaine, une mezzo venue du Grand Nord, Vivica Genoux à notre table. Et tout de suite, Les Dames du Piano de Rodolphe Bruno Boulmier, aujourd'hui Alice Adair.
Nice beaver.
Thank you.